Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, merci d'être à ce rendez-vous quotidien de VOA Afrique. En direct de Washington, chez Ruben Dorcil et Morgane Guiriac.
Les grands points de l'actualité, double attentat suicide dans le nord du Nigeria, bilan plus de 45 morts.
Attaque terroriste dans le nord du Mali, 2 soldats maliens ont été tués et 9 autres blessés.
Au Burkina Faso, la pression de la rue a déjà eu raison d'un membre du gouvernement. Le ministre de la Culture a démissionné.
À Strasbourg, le pape François appelle à un réveil de l'Europe et un retour aux principes de droits humains et de démocratie.
États-Unis, de nouvelles émeutes en perspective dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, après la décision d'un grand jury de ne pas inculper un policier blanc qui a abattu un adolescent noir.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord, le journal.
Dans le nord-est du Nigeria, plus de 45 personnes ont été tuées par un double attentat suicide perpétré par des femmes dans un marché populaire de Maïdougouri. Le point avec Idriss Fall.
Deux femmes kamikazes ont commis ce double attentat meurtrier ce matin dans le Monday Market, un marché bondé dans le centre de Maïdougouri. Selon des témoins, alors que la foule essayait de porter secours aux victimes du premier attentat suicide, une autre femme s'est fait exploser avec une bombe cachée sous son hijab. L'équipe médicale sur place a fait état de plus de 45 personnes tuées, dont certaines ont été complètement décapitées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais ce même marché a déjà été la cible d'un attentat à la voiture piégée qui avait fait 56 morts en juillet dernier. C'est à Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, que Boko Haram a été fondé il y a plus de 10 ans. Cette année, le groupe djihadiste s'est emparé d'une vingtaine de localités dans les 3 États de Borno, Adamawa et Yobe et affirme avoir instauré un califat islamique. Hier, la ville de Damasak, à la frontière avec le Niger, a constitué leur dernière prise. D'après Maina Maj Lawan, sénateur de l'État de Borno, les soldats nigérians ont fui avec une partie de la population pour trouver refuge au Niger voisin.
Dans le nord du Mali, le convoi du ministre de l'Agriculture, Boukari Tritta, en mission dans la région, a été la cible d'une attaque terroriste entre Gao et Bourem. Un des véhicules de l'escorte a sauté sur une mine, bilan 2 morts et 9 blessés, tous des militaires maliens. De Gao, le reportage de Boubacar Touré.
Le ministre de l'Agriculture, Boukari Tritta, à la tête d'une forte délégation, est arrivé hier dans la région en mission officielle qui l'a conduit à Ansongoum. Ce mardi matin donc, le ministre de l'Agriculture se rendait à Bourem, deuxième étape de sa mission. En route, l'un des véhicules de l'escorte saute sur une mine vers 10h heure locale, près de Tondibi, village de la commune de Taboy, dans le cercle de Bourem. Le bilan varie d'une source à l'autre. D'aucuns parlent de 2 morts et 6 blessés. D'autres avancent un bilan de 2 morts, 9 blessés, dont 2 graves, tous des militaires maliens. Les blessés ont été immédiatement admis à l'hôpital régional pour recevoir des soins. La mission du ministre a été alors annulée et la délégation a regagné la ville de Gao. Le village de Tondibi est situé à 40 km de Bourem où le vendredi dernier, un kamikaze s'est fait exploser sans faire de victimes. Les populations de la région sont de plus en plus inquiètes. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, sous pression, le ministre de la Culture et du Tourisme a soumis sa démission aujourd'hui. Le point avec Jacques Aristide.
Une nomination et un départ éclair. Adama Sagnou aura donc tenu seulement 24 heures à la tête du ministère burkinabé de la Culture dans le gouvernement de transition. Il s'agit d'un départ forcé. D'emblée, sa désignation ne plaisait pas aux organisations de la société civile qui le montraient du doigt dans l'affaire Norbert Zongo, ce reporter d'investigation abattu en décembre 1998. Ces ONG accusaient Adama Sagnou de ne pas avoir permis de faire toute la lumière dans ce dossier en obstruant les procédures judiciaires à l'époque où il était procureur sous le régime de Blaise Compaoré. Le journaliste Zongo menait une enquête sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, le frère de l'ancien président. Récusant les accusations contre lui, le ministre à démissionnaire Sagnou a déclaré qu'il n'avait rien à se reprocher en soulignant qu'il n'était ni le premier ni le seul procureur à avoir travaillé sur le cas Zongo. Mais les détracteurs d'Adama Sagnio ne lâchaient pas prise. Ils sont descendus dans la rue lundi pour protester contre sa nomination par le nouveau chef du gouvernement, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. De nombreuses personnalités du domaine culturel n'ont pas non plus digéré ce choix et appelé, elles également, à sa démission pure et simple.
Au Niger, 12 personnes écrouées dans un trafic présumé de bébés ont été remises en liberté provisoire. 6 personnes, dont l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée, Ama Amadou, n'ont pas bénéficié de cette mesure. Maître Souley Oumarou, avocat à Niamey.
Un événement extraordinaire. La plupart des femmes et des personnes incriminées de cette rocambolesque affaire ont aujourd'hui été libérées, à l'exception naturellement de Mme Ama Amadou, qui était l'une des premières à être arrêtée depuis le mois de juin, et naturellement en dehors de Hamma, contre lequel un mandat d'arrêt court toujours. Il y a également le colonel de la garde nationale et son épouse qui vient d'être arrêtée il y a 2 semaines, qui est également garde de prison, parce que l'instruction vient de commencer à ce qui les concerne et qu'ils n'ont introduit aucune demande de liberté provisoire. Nous avons toujours dit et soutenu que l'objectif final était de chasser Hamma Amadou comme un membre propre de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été donc consommé hier à l'Assemblée. Et voilà qu'aujourd'hui, toutes les personnes, femmes et hommes, ont été mis en liberté provisoire. Ce que Mme Hamma a demandé et qui a eu lieu, cela a été refusé.
Souley Oumarou, avocat de l'épouse de Hamma Amadou à Niamey.
Manifestation à Abidjan, Côte d'Ivoire. Environ 200 vendeurs d'eau s'étaient rassemblés pour dénoncer l'interdiction de mini-doses d'eau vendues dans des sachets en plastique. La police est intervenue pour disperser la foule. Un homme a été blessé et une dizaine d'autres ont été arrêtés.
Au Burundi, l'ONU dénonce le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme qui sont assimilés à des opposants politiques.
Et au Soudan, le gouvernement demande à la mission onusienne de fermer son bureau des droits de l'homme à Khartoum, mesure qui intervient alors que la MINUAD enquête sur des allégations selon lesquelles des soldats soudanais auraient violé 200 femmes et filles dans le Darfour.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'écroulement de murs d'un vieil entrepôt censé abriter les engins de travaux publics de l'État a fait 7 morts, dont 2 enfants et 14 blessés. Cela s'est passé à Bukavu.
En RDC toujours, près de la frontière zambienne, 9 camions étaient toujours en feu cet après-midi à Kasum-Balessa, au lendemain d'un déclenchement d'un énorme incendie sur un parking douanier. C'est ce que constate l'AFP. Une 50aine d'autres camions ont été calcinés. Au moins 2 personnes ont été tués et 10 autres brûlés lors de ce drame.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nouvelles émeutes en perspective dans la ville de Ferguson, dans le Missouri, après la décision d'un grand jury, une chambre de mise en accusation, de ne pas inculper un policier blanc qui a abattu un adolescent noir non armé au mois d'août. La décision annoncée hier soir a déclenché une nuit de violence qui a vu les manifestants piller des bâtiments et mettre le feu aux voitures. Jean-Roger Bion.
Une douzaine de bâtiments sont partis en flammes. La police a arrêté 61 personnes dans cette banlieue de la ville de Saint-Louis. La violence a éclaté en dépit des appels au calme du président américain Barack Obama et de la famille de Michael Brown, le jeune homme de 18 ans qui a été abattu par l'agent Darren Wilson le 9 août dernier. Bien qu'aucun cas de blessure grave n'ait été signalé, les troubles de lundi soir étaient les pires jamais vus dans la ville. Des manifestations ont également eu lieu lundi soir dans d'autres villes à travers les États-Unis. À Times Square à New York, les manifestants brandissaient des pancartes dénonçant la tyrannie de la police et scandaient le slogan « Mets en l'air, ne tirez pas », devenu populaire lors des rassemblements contre les violences policières. À Oakland et à Chicago, les manifestants les mains en l'air ont inondé les autoroutes bloquant les voitures. Une petite foule de protestataires a également manifesté devant la Maison Blanche. La famille de Michael Brown, quant à elle, a publié une déclaration disant qu'elle était profondément déçue par la décision du grand jury. Le ministre de la Justice, Eric Holder, a toutefois déclaré que l'enquête fédérale sur le meurtre continue. Le ministère de la Justice cherche à déterminer si la police de Ferguson a violé la Constitution dans ses procédures.
Au moins 63 personnes, en majorité des civils, ont été tuées ce mardi dans des raids de l'armée de l'air syrienne sur la ville de Raqqa, fief du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Parmi les 63 morts figurent au moins 36 civils. Il y a également 20 corps non identifiés qui pourraient être ceux de civils ou de djihadistes, ainsi que des lambeaux de corps de 7 autres personnes, a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. de l'homme.
Le chef suprême de l'Iran a critiqué les États-Unis et ce qu'il appelle les puissances colonialistes européennes suite à l'échec des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Ils n'ont pas réussi à mettre l'Iran à genoux, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei. Cette réaction publiée sur son site web est la première depuis que Téhéran et le groupe 5+1 ont convenu de prolonger les négociations jusqu'au mois de juin 2015, faute d'un accord à Vienne.
Accueil triomphal pour le chef de l'Église catholique romaine aujourd'hui à Strasbourg, où il a pris la parole devant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Le pape François a prêché un réveil de l'Europe et un retour aux principes de droits humains et de démocratie.
Sur les côtes européennes, ci sono uomini e donne che necessitano.
Le souverain pontife a exhorté les Européens, entre autres, à soutenir une politique d'immigration plus courageuse, ouverte et humanitaire. C'est la première fois en plus de 25 ans qu'un pape prenait la parole devant ces deux institutions.
Si vous payez un peu moins pour faire le plein, sachez que cela pourrait changer. Depuis juin, le prix du pétrole brut a chuté de 30% jusqu'à moins de 80 dollars le baril. Aujourd'hui, les 12 membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, se sont réunis à Riyad pour envisager une baisse dans la production afin de relever le prix de l'or noir.
Voilà pour le journal. Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie dans Le Monde aujourd'hui. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Retour sur la lutte contre l'Ebola.
À l'instar de nombreux pays, la Chine prend des précautions pour préserver son territoire du virus mortel. Les visiteurs en provenance des pays africains les plus touchés sont confinés dans un hôtel de la ville portuaire de Guangzhou, dans le sud du pays, le temps de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de la fièvre hémorragique. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
L'hôtel Canton est un maillon important de la chaîne des mesures de prévention de l'Ebola en Chine. Il reste ouvert pour les activités régulières, mais plusieurs étages ont été réservés pour les porteurs potentiels du virus, les personnels de santé et les agents de sécurité chinois. Les autres hôtels ont reçu des consignes fermes à l'effet de diriger les Africains vers l'hôtel Canton, le lieu exclusif pour leur hébergement. Mohamed, un commerçant sierra-léonais, en a fait la triste expérience.
À mon arrivée, j'étais très frustré, car partout où j'avais l'habitude de rester, on me disait à la vue de mon passeport, « Désolé, nous ne pouvons pas vous accueillir. »
Par des amis, Mohamed a appris qu'il devait se rendre à l'hôtel Canton. Cette commerçante, venue du Congo, qui a voulu garder l'anonymat, y séjourne.
Il doit se protéger parce qu'on dit que la maladie est là. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un dans mon pays malade. Je n'ai pas vu. Mais on a appris par les médias que la maladie est en Afrique. Bon, par mesure de prévention, ils doivent prendre ces mesures qu'ils sont en train de prendre. Mais on ne doit pas traiter les gens comme des chiens malades. On vient nous checker chaque matin, chaque soir. On prend la température pour voir si vous avez la fièvre, la toux et tout.
Les Africains apprécient certes d'avoir un endroit où rester gratuitement, mais certains ont des préoccupations. Moussa est originaire du Togo, mais porte un passeport guinéen. Il dénonce une atmosphère de stigmatisation.
Les Guinéens là maintenant, avec les Sierra Leonais, les Libériens, et là, leurs documents là, partout on les présente et ils ont des Ebola. Mais les gens aussi qui vivent là-bas comme les étrangers, et ils ne sont pas Ebola.
Les autorités chinoises ne communiquent pas vraiment sur le sujet. Cependant, les mesures mises en place à l'hôtel pour les voyageurs en provenance d'Afrique ne devraient pas changer de sitôt.
Roger Moutou avec vous. Dans Washington Forum, c'est jeudi, l'impact de la musique dans les sociétés africaines. Laissez-nous vos commentaires sur la page de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur la VOA.
Au Cameroun, les autorités annoncent que les attaques de Boko Haram ont conduit à la fermeture d'au moins 130 écoles près de la frontière avec le Nigeria. La plupart des élèves ont quitté la région pour d'autres parties du pays où ils seront plus en sécurité. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka de La Voix de l'Amérique, présenté par Lionel Gaïma.
Cette situation est le résultat des raids violents et d'enlèvements perpétrés par la milice islamiste nigériane, dont le nom Boko Haram est, pour commencer, une dénonciation de l'éducation occidentale. Les écoles demeurent donc les cibles favorites. C'est ainsi que ces attaques ont, selon Monuna Fotso du ministère de l'Enseignement secondaire, pratiquement arrêté toute activité scolaire le long de la frontière de 500 km entre le Cameroun et le Nigeria.
The diagnosis is going on.
Le diagnostic se poursuit pour savoir si certaines écoles ont été détruites ou occupées parce que quelques-unes d'entre elles ont été temporairement occupées. Je ne vous cache pas que nous sommes inquiets, très inquiets de cette situation. Il s'agit de nous tous au sein du gouvernement, pas seulement au ministère de l'Enseignement secondaire. En raison de cette insécurité, les autorités ont conseillé la réinstallation des élèves et des enseignants parce que l'objectif de Boko Haram est de traumatiser nos citoyens, a expliqué Monuna Fotso. Les secteurs frontaliers les plus touchés sont ceux d'Amchide, Fotokol, Kolofata et Kitimatari. Il y a 2 mois, Ashingashia a annoncé une fermeture de 30% de ses écoles quand Boko Haram a occupé la ville pendant 3 semaines avant d'en être chassé par l'armée camerounaise. Malgré l'envoi des troupes dans la région et sa coopération avec le gouvernement nigérian, le Cameroun devient de plus en plus un tremplin pour la milice islamiste et ses attaques, ainsi qu'une victime de sa campagne violente pour créer un califat dans le nord du Nigeria. Simultanément, le pays fait face à la présence de centaines de milliers de réfugiés venus non seulement du Nigeria, mais aussi de la République centrafricaine, un autre point chaud de la région.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ONU Femmes lance une campagne de 16 jours. À l'heure où la communauté internationale se mobilise pour mettre un terme au mariage précoce et à l'union forcée des filles, l'âge légal du mariage au Cameroun est encore de 15 ans. Nathalie Barge a joint à Yaoundé la représentante d'ONU Femmes Cameroun, Rachel Djangonemian, qui annonce un futur projet de loi d'interdiction de l'excision.
Le cadre juridique et institutionnel au niveau du Cameroun est assez robuste et permet de protéger le droit des femmes et des filles. Maintenant, ce qu'il faut, comme dans tous les pays, je pense que c'est l'application de ces textes-là qui fait souvent défaut, parce que le Cameroun a ratifié la CEDEF, le Cameroun a pris des dispositions, notamment l'âge au mariage a été fixé à 15 ans.
Est-ce que cela correspond aux visions de l'ONU, 15 ans? Pourquoi pas 18 ans?
L'ONU, on passe l'âge au mariage à 18 ans, mais ce qu'il faut comprendre, même l'âge qui a été fixé n'est pas respecté dans les faits. Donc il y a aussi l'application du texte qui a été pris qui est aussi remis en cause. Parce que même si l'âge est fixé à 15 ans ou à 18 ans, il faut qu'on arrive à le respecter.
En ce qui concerne l'excision, est-ce que vous avez encore un pourcentage important de filles qui sont excisées?
Si, de façon globale au niveau national, on a des statistiques très faibles, mais on a des régions dans lesquelles la partie de l'excision est en hausse. Il faut dire qu'à ce niveau-là, le ministre de la Promotion de la Femme du Cameroun a interpellé les députés sur la nécessité de mettre en place des dispositions devant interdire la pratique de l'excision dans le pays. Et des initiatives sont menées sur le terrain par des partenaires au développement et des ONG internationales pour amener les populations même à comprendre le bien fondé de laisser tomber la pratique de l'excision.
Qu'est-ce qu'il y aurait à ajouter sur les droits des femmes dans votre pays, au Cameroun?
Pendant ces 16 jours d'activisme au niveau du Cameroun, nous avons prévu beaucoup d'actions qui vont être menées. Aujourd'hui marquait le lancement officiel des 16 jours d'activisme. La semaine prochaine, nous avons une discussion qu'on appelle ici le Jean Café, qui est un espace de discussion et de plaidoyer. Nous allons débattre du thème ICT et violence basée sur le genre, féminisation du VIH-SIDA. Nous allons aussi procéder au lancement du call center. Le call center, c'est un numéro vert qui sera mis à la disposition des victimes et des suivis de violence basée sur le genre pour qu'on puisse leur apporter une assistance rapide. Et ensuite, nous avons prévu de faire la formation des journalistes et de mettre en place le réseau des journalistes de lutte contre les violences basées sur le genre et la féminisation du VIH-SIDA. Ensuite, il est prévu au niveau de la société civile plusieurs actions éclatées, aussi bien à l'extrême nord, dans les sites des réfugiés, que dans d'autres parties du Cameroun, où il aura des actions pour vraiment booster et faire prendre conscience aux populations de l'importance de nous investir tous dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans le pays.
Voilà, c'était la représentante d'ONU Femmes Cameroun, Rachel Djongone-Mian.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral a décidé de poursuivre son enquête sur la mort de Michael Brown, l'adolescent noir non armé abattu il y a quelques mois par un policier blanc dans la banlieue de St. Louis dans le Missouri. Une chambre de mise en accusation a décidé hier de ne pas poursuivre en justice Darren Wilson, provoquant des manifestations de colère à travers le pays, Morgan.
Mais le gouvernement fédéral pourrait toujours traduire en justice M. Wilson s'il conclut que le policier a violé les droits civiques de Brown. C'est une des options qui reste à la famille de Brown et au système judiciaire américain et dont discute ici Idrissa Seydoudia avec André de Nesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique.
Eh bien, la famille peut attenter un procès civil. C'est-à-dire que le fait que le grand juré a décidé de ne pas mettre des façons criminelles contre le policier Wilson, tout ce qui s'agit de criminalité est repoussé, c'est fini. Alors ils peuvent maintenant simplement attenter un procès civil, c'est-à-dire contre la personne du policier.
Alors, quelles sont les conséquences possibles de ce genre de procès? De toute façon, le policier, lui, il ne va pas se retrouver en prison, même s'il est reconnu coupable dans ce procès aussi.
Pas du tout. C'est une question d'argent. C'est une question de combien de dollars ils vont essayer justement de... En fait, combien vaut une vie?
À titre de réparation.
À titre de réparation, exactement.
Très bien. Alors, pour le gouvernement fédéral, l'enquête se poursuit.
L'enquête se poursuit, mais il semble que c'est bien plus difficile de prouver le cas dans le système fédéral que dans le système criminel. Alors, ils vont maintenant justement continuer ces investigations. Premièrement, on va savoir, est-ce qu'ils vont se dire, bon, ben, il n'a pas été pris du niveau criminel. Peut-être on va remettre de côté les autres investigations. Mais pour l'instant, ils continuent.
Alors, dans le cadre du gouvernement fédéral, il s'agit... Pourquoi ils disent que c'est difficile, que c'est très difficile de prouver un cas pareil? Il faut déterminer quelle était l'intention... du suspect.
Exactement. L'intention, il faut qu'ils aient toutes les possibilités. L'intention. Mais comment est-ce qu'on peut justement juger l'intention? C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau d'une personne. Alors, d'intenter un procès justement de l'intention, c'est très difficile à prouver.
C'est très difficile. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis dans des cas pareils, il y a eu très peu de poursuites. Bon, on donne le cas de Rodney King à Los Angeles, quand il avait été vraiment battu par des policiers. Alors là, ces policiers avaient été, au moins deux d'entre eux avaient été poursuivis par le gouvernement fédéral. C'est tout simplement parce que là, il y avait la vidéo.
Là, exactement, il y avait la vidéo. Et là, il n'y a pas de vidéo, en fait, qui soit aux alentours de ce qui s'est passé, justement, il y a quelques jours.
Et on parle aussi du cas d'Amadou Diallo à New York.
À New York, oui. Ça aussi, il y a eu. Mais ça, ce sont des cas... ce sera, à mon avis, bien plus difficile de le faire vis-à-vis du policier Wilson.
Mais en tout cas, le gouvernement fédéral va continuer l'enquête.
Pour l'instant, oui, ils vont continuer l'enquête.
André de Nesnera, grand reporter de La Voix de l'Amérique. Pour rappel, Amadou Diallo était un jeune Guinéen battu à New York par des policiers qui avaient tiré plus de 40 fois sur lui, pensant qu'il cherchait son pistolet, alors qu'il en retirait de sa poche ses pièces d'identité.
VOA Afrique, c'est aussi les sports. Bonsoir Timothée Donangmaï.
Bonsoir Gabi.
Commençons cette page sport par une ferme déclaration du président de la CAF contre la violence dans les stades après la tragédie du dimanche en RDC où des incidents, après un match, ont fait 3 morts et plusieurs blessés à Lubumbashi.
Le football doit rester un moment de communion, de fraternité, de partage, de célébration et de joie en phase avec la légendaire culture d'hospitalité et de solidarité des peuples d'Afrique, a déclaré Issa Ayatou. Le président de la CAF a présenté ses condoléances aux familles éprouvées.
Parlons de football européen, team. 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir.
Et oui, plus que 10 places à pourvoir en 8e de finale après les qualifications de Real Madrid, de Barcelone, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Bayern et FC Porto. Ce soir, dans le groupe A, CSKA à Moscou affronte AS Rome, Manchester City joue contre le Bayern. Dans le groupe F, Apoel contre Barcelone et PSG contre Ajax. Dans le groupe G, Schalke croise Chelsea et Sporting affronte Maribor. Et dans le groupe H, Bate Borisov joue contre FC Porto et Shakhtar Donetsk affronte Athletic Club.
Est-ce que c'est vrai que la compagnie japonaise Sony ne va pas renouveler son contrat de parrainage avec la FIFA?
C'est ce qu'annoncent des médias japonais. Ce contrat de 8 ans d'une valeur de 225 millions d'euros arrive à expiration cette année et Sony semble avoir choisi de ne pas le reconduire. La compagnie Nippon, il faut le dire, connaît des difficultés financières et cherche à limiter ses dépenses. C'est le deuxième sponsor majeur à ne pas renouveler son partenariat avec la Fédération internationale de football association après la compagnie aérienne Emirates.
Terminons par quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
Eh bien, Gabi, après 4 défaites consécutives, Cleveland s'est ressaisi hier soir en battant Orlando 106 à 74. LeBron James, bien entendu, a joué un rôle clé dans cette victoire avec 29 points et 11 passes décisives. Toronto a défait sur son parquet Phoenix 104 à 100. Victoire à l'arraché de Chicago sur le parquet de Utah 97 à 95. Autre victoire à l'extérieur, celle de Portland à Philadelphie 114 à 104. Il faut dire, Gabi, que c'était la 14e défaite de Philadelphie en autant de matchs depuis le début de la saison.
Un palmarès intéressant pour nos amis d'à côté. Merci Timothée Donangmaï pour les sports.
Allez, on a Roger Muntou en studio pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. Ce soir, nous écoutons Kanjura, une chanson composée par un des plus grands joueurs de kora, Toumani Diabaté, est originaire de Bamako au Mali.
Toumani Diabaté, hein, qui compte parmi les musiciens maliens qui ont rendu hommage à Mangala Camara vendredi dernier à l'Institut français du Mali.
Exactement, ils étaient nombreux, Morgane, à lui rendre hommage. Toumani a reconnu qu'en plus de son talent de chanteur, Mangala Camara était un parolier hors pair. Les deux artistes, Morgane, ont collaboré dans Mali Sadio.
C'est la fin de cette édition mise en onde par Lionel Gaïma avec notre ami Misha Dubinsky à la console technique.
Morgane Guiriec au micro.
En compagnie, bien sûr, de Chérubin Dorsil. Écrivez-nous sur Facebook et visitez notre site internet voaafrique.com.